Les bas-fonds de Paris, tome 1, première partie, chapitre 5, rue Saint-Dominique. Ce soir-là, il y avait un mouvement extraordinaire dans l'hôtel de Charmeuse. Des allées et venues inquiètes, des ordres brefs transmis à voix basse, des lumières qui couraient, et, venues de très loin, semblait-il, étouffées par les tentures, des gémissements de femmes qui déchiraient à intervalles réguliers le silence de la nuit. Rue Saint-Dominique, l'hôtel dressait au fond d'une vaste cour sablée sa façade grandiose, avec son sévère perron de marbre couronné d'une haute marquise, ses fenêtres à balustres, ses demi-colonnes en pierre grise et ses entre-deux en briques patinées par le temps. Une muraille élevée, coupée d'un monumental portail en bois plein, semblait mettre une dédaigneuse et froide barrière entre le monde et l'antique maison où s'était perpétuée l'illustre lignée, depuis Jean Gontran, qui mourut à Pavie sous les yeux du roi François Ier, jusqu'à Roger, qui, de toute la gloire accumulée par les siens, venait de se faire une marchandise achetée en bloc par le banquier Bonner. Autre temps, autre mœurs. Deux petits pavillons modernes encadraient la cour et venaient se relier aux murs en bordure de rue. À gauche, les communs, écurie, remise et logis du concierge, à droite, les appartements de monsieur le comte Roger, qui vivait là presque en garçon, n'apparaissant dans les somptueux salons de l'hôtel que les soirs de réception mondaine. Dans le fumoir, entièrement tendu de cuir de cordoue, le comte se promenait, lent et rêveur, les mains croisées derrière le dos. Il était un peu pâle. Un imperceptible haussement d'épaules, parfois, accentuait sa pensée ou répondait à quelque importune velléité de remords ou de rage intime. Il s'arrêtait, tendait l'oreille, reprenait sa marche monotone, puis il venait coller son front à la vitre humide de la fenêtre et fixait avec obstination une chambre qui, par les fentes de ses rideaux, laissait échapper une lumière. Il regardait passer les domestiques affairés, s'intéressait aux courtes exclamations qui lui parvenaient. Puis encore, las et ennuyé, tourmentant sa moustache d'une main fébrile, il recommençait sa promenade, un peu honteux peut-être, de toute cette agitation à laquelle, seul, il était étranger, lui, le maître de la maison. N'y tenant plus, il sortit, longea un couloir, pénétra dans un grand salon, immense pièce glaciale, qui contrastait étrangement avec le luxe élégant du reste de l'hôtel. C'était le salon des aïeux, l'éternel et somnolent musée de ses intérieurs fermés à tout, sauf à la honte. Là, par une sorte de coquetterie nobiliaire, respectable, sinon aristocratique, le comte avait accumulé les vestiges des temps écoulés, les souvenirs que les comtes de Charmeuse s'étaient transmis d'âge en âge, toute la défroque ancestrale bazardée contre les écus du célèbre flibustier Bonner. C'étaient de pesantes armures à brassards et à jambières, des casques à signets qui reluisaient confusément, des estramaçons à double tranchant. Sous une vitrine, un collier de Saint-Louis. Dans un coin, une chaise à porteurs, des meubles de jadis, un lit à baldaquin que la légende de la famille affirmait avoir, une nuit, servi de couche royale à Louis XIV. Puis des joyaux, des époques disparues. Sous un globe, une chemise à col échancrée à grands coups de ciseaux, la chemise que portait Bertrand de Charmeuse en montant à l'échafaud la veille du 9 Thermidor. Au mur, des portraits de gens perruqués et poudrés, des pastels ou de vieilles dames au sourire à demi effacé semblaient encore attendre qu'on vînt leur présenter la main pour les conduire à la cour. Oh, profanation ! Un soir, pourtant, le brutaliste chansonnier du cabaret de Montmartre avait chanté là. Et dans ce décor imposant, où passaient les souffles héroïques des traditions familiales, le comte Roger de Charmeuse, serré dans sa redingote, paraissait presque grêle, d'une élégance mièvre, écrasée, rapetissée par le poids de tant de souvenirs symbolisant les dégénérescences de la noblesse actuelle, vendu au roi de la bourse et servilement aplati devant le veau d'or. Il n'éprouvait cependant aucune gêne, aucune émotion, reprenant son va-et-vient comme dans un cimetière où ne dorment que des inconnus, corrects, sceptiques ou inconscients. Une porte au fond s'ouvrit brusquement. « C'est fini, vous pouvez venir !» fit une voix joyeuse. « On vous cherchait partout !» Le comte tressaillit. Un instant, ses poings se crispèrent. Puis, de son haussement d'épaule indifférent, il sembla jeter bas le fardeau trop lourd d'un commencement de colère. Il esquissa, dans le vide, une chiquenaude, prit un sourire de commande et répondit « Merci, docteur. Et les choses se sont bien passées ?»« À merveille. La sage-femme vous donnera des détails. Heureux père. Pourtant, il y a un hic. Oh, si gentil, mais là, si mignon. Sa mère l'appelle déjà Rose-Aimée. » « Voyons, fit le comte en fronçant les sourcils, vous dites ?»« Ce n'est qu'une fille, avoua le docteur avec un bon gros rire. Espérons que la prochaine fois, madame la comtesse et vous-même... »« Bien, bien, interrompit Roger, merci. » Le médecin, vieux brave homme attaché depuis 30 ans aux charmeuses, salua et se retira en murmurant. « Qu'a-t-il donc ? On dirait qu'il n'est pas content. Et pourtant, c'est un vrai petit ange qui lui tombe du ciel. » Le comte avait appuyé 2 fois sur un timbre. Un valet se présenta. « Faites demander à madame la comtesse si elle peut me recevoir. » Quelques secondes plus tard, apparaissait la sage-femme. « Monsieur le comte me saura gré de lui apprendre que tout s'est bien passé. Malgré les réels et sérieux dangers des accouchements prématurés. « Vous serez récompensée, madame, » dit Roger avec un geste de soudaine impatience. « C'est bien. »« Oh, monsieur le comte, ce n'est pas pour cela. Cela suffit. » À son tour, la sage-femme sortit, bougonnant entre ses dents. « Je veux que le diable m'emporte si cet enfant n'est pas venu à terme. Admirable, superbe. Et les accomptes sur le mariage. Oh, on n'est pas de bois non plus dans le grand monde. » Est-ce que cette chipie se douterait de la vérité ? Se demanda le comte. Voilà ce que je redoutais. Il pâlit, regarda autour de lui avec le frisson du joueur devant un coup de carte décisif. Mais il redressa la tête soudain et l'œil provocateur. Bah, qu'il y en ait un seul qui se permette un mot ou un sourire, et nous verrons si je suis encore la première épée de Paris. Allons ! Devant la chambre à coucher de sa femme, il s'arrêta, se recueillit, puis frappa. La porte ouverte, il renvoya d'un signe impératif les 2 femmes de chambre qui, légères et discrètes, avaient fait disparaître en un clin d'œil les traces de l'émouvante lutte, de la poignante bataille que la mère, l'éternelle blessée, livre à la mort pour perpétuer la vie. À présent, régnait une paix religieuse, un silence alangui, dans la douce lueur des bougies roses voilées d'abat-jour de mousseline d'une blancheur de neige. Devant le lit, tout près de la jeune mère, une adorable bercelonnette dressait sa flèche dorée, d'où retombaient les rideaux de dentelle rare, relevés par des nœuds de satin, gracile et charmante autel, où vagissait l'ange nouveau-né, l'infortunée mignonne, promise peut-être aux souffrances imméritées, innocente victime des calculs et des âpres convoitises du père. Le père ? Était-ce bien un père, cet homme, ce comte, qui passait près du berceau sans daigner le regarder et s'inclinait froidement devant la femme prostrée, noyée dans un fouillis de luxueuse et immaculée blancheur ? Comme elle était belle, cependant, en cette ineffable minute de triomphe et de cruelle maternité, la douce et blonde comtesse de Charmeuse. C'était sur son front pâli un pur rayonnement des joies sacrées, c'était, dans le sourire apaisé de ses lèvres délicates, l'oubli des affres subies, le baiser qui voltigeait vers la créature adorée, c'était enfin, sur tout son visage attendri, la sublime fierté de la création accomplie, avec le vague étonnement de ce mystérieux dédoublement de sa chair encore frissonnante. Et un charme inexprimable se dégageait de cette femme plongée dans le ravissement, affaissé dans l'écrasement de tout son être après la longue et douloureuse épreuve. Adrienne de Charmeuse avait les yeux fixés sur le berceau, et sa tendresse infinie, son divin amour, passaient dans son regard bleu, noyé de souffrance et de joie. C'était une beauté parfaite et tendre, d'une immense et touchante sympathie. C'était aussi, on le devinait, un cœur d'une exquise sensibilité. Admirée dans le monde pour la grâce si langoureuse de sa taille, pour les blondesses harmonieuses de ses cheveux cendrés, l'azur limpide de ses intenses prunelles, elle était adorée de tous ceux qui l'approchaient. Sa bonté souveraine et son inépuisable charité faisaient d'elle la madone des pauvres gens, un être d'élection qui laissait sur son passage, comme un parfum de pureté et de radieuse miséricorde, une de ces femmes à qui nulle qualification de beauté ne convient et qui console des hideurs de l'humanité présente. Une sainte. En ce moment, tout entière à l'extase de son rêve maternel, elle oubliait les angoisses qui avaient étreint son âme de jeune fille, le drame de son mariage imposé par le père, comme aussi les tortures d'un amour brisé dans sa fleur. Et ce fut en elle un long, un pénible tressaillement lorsque, entre le lit et le berceau, entre elle et sa tendre songerie, s'interposa l'ombre courbée du comte Roger qui, du bout des lèvres, d'une politesse glaciale, lui demandait « Me serait-il permis, madame, de vous entretenir quelques instants d'affaires sérieuses ?» Elle poussa un faible soupir et ferma les yeux, raidie dans une volonté de ne pas voir celui qui lui parlait, celui dont elle portait le nom, son mari. Monsieur de Charmeuse reprit avec vivacité, mais avec aussi un peu plus de douceur. « Oh, je ne prétends pas vous imposer ma présence, si elle vous est par trop pénible en un pareil moment. Un mot, madame, et nous remettrons à demain cet indispensable entretien. » De sa main lasse, la comtesse Adrienne fit un geste qui indiquait son désir d'en finir au plus tôt. Il s'assit sur une chaise, au chevet du lit. Elle put alors revoir le cher berceau qu'elle se remit à contempler ardemment, tandis que, sombre et nerveux, le comte évitait de regarder le pauvre petit bébé, le chérubin, qui dormait, avec cet air grave et inquiet qu'ils ont tous, les chers anges venus de si loin, à leur arrivée dans ce monde de misère. Sourdement, Roger s'expliqua. « C'est la première fois, madame, que je pénètre dans cette chambre, et vous me rendrez au moins cette justice que j'ai tenu tous mes engagements. J'ai vécu près de vous comme un étranger. J'ai touché votre main pour la première et la dernière fois le jour où je vous ai conduite à l'hôtel. Je ne serai jamais entrée ici, chez vous, sans l'événement prévu qui va modifier notre situation. » Palpitante, elle écoutait, sans un mot, sans un geste, devinant, hélas, le coup fatal qui allait la frapper. Le comte parut faire un violent effort et jeta enfin les yeux sur le berceau. « Cet enfant, continua-t-il avec une froideur implacable, qu'allez-vous en faire ?» Les mains affinées, presque diaphanes, de la comtesse de Charmeuse se crispèrent sur le drap de fine batiste. « Oui, je comprends, dit-il. C'est votre fille, madame, et pour vous, ce sera une souffrance de vous séparer d'elle. Mais pouvez-vous m'infliger sa présence sous ce toit ? Je viens réclamer le strict accomplissement de nos conventions. Notre mariage a été une affaire, oh, pardonnez-moi, c'est l'expression même dont s'est servi monsieur votre père. » « J'ai été sauvée de la ruine, c'est vrai, mais en vous donnant mon nom, je vous ai, de mon côté, sauvée du, il allait dire, du déshonneur. » Mais le gentilhomme se retint. Il se mordit les lèvres et continua. « Du désagrément qu'eût entraîné pour vous la constatation officielle de votre état. Mon Dieu, poursuivit-il avec un sourire contraint, je ne veux pas me poser en mari féroce et ridicule. Vous verrez cet enfant tant qu'il vous plaira. Mais pas ici. Que ce soit le plus loin possible, qu'elle disparaisse. Cela, il le faut absolument. » Il s'emballait. Ce fut avec véhémence qu'il prononça ces derniers mots, car l'homme, si taré ou civilisé soit-il, reparaît toujours. La comtesse eut une contraction plus douloureuse, et de larmes perlèrent au bord de ses longs cils bruns. Le mari respirait péniblement. Il se leva et, penché sur sa femme, « Ce sera pour demain matin, n'est-ce pas ? Vous choisirez une nourrice, assez près de Paris pour que vous puissiez y aller à votre guise. Adieu, madame. Pardonnez-moi de vous avoir ainsi affligée, mais je le répète, il le fallait. Nous redevenons ce que nous serons toujours, deux époux, heureux et modèles devant le monde, deux étrangers dans notre maison. » Silencieuse, abîmée dans le flot des dentelles, les yeux mi-clos, la comtesse de Charmeuse pleurait, sanglotait, vaincue par l'inexorable fatalité de cette séparation contre laquelle tout son cœur de mère se révoltait, mais contre laquelle elle ne pouvait rien. Le comte s'était incliné très bas. Puis il regagnait la porte, soulagé, libre désormais, ayant, comme il le disait, strictement accompli ses conventions. Tout à coup, des cris lointains le frappèrent d'une inquiète stupeur, des gémissements qui venaient, semble-t-il, de la rue si paisible, si déserte d'ordinaire à cette heure. Cette voix qui hurlait dans la nuit, il crut la reconnaître. Il la reconnut. « Encore elle ? » murmura-t-il épouvanté. Livide, tremblant, il se jeta dehors, la main tendue, comme s'il voulût étouffer la plainte continue de la jeune femme qui, dans la rue, sur le trottoir boueux, appelait « Oh, je meurs ! À moi ! À moi !»